VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bibillon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 22 décembre 2023. La République démocratique du Congo attend les premiers résultats provisoires des élections après un scrutin chaotique. Les derniers soldats français ont quitté le Niger 5 mois après le coup d'État.
On est content de leur départ car c'est une bonne chose pour le pays. Et puis maintenant, l'armée nigérienne va prendre le relais.
Un reportage à suivre dans la partie magazine. Au Togo, un violent incendie a ravagé un marché de la capitale Lomé. Un coup dur pour les commerçants à quelques jours des fêtes. Ici aux États-Unis, l'administration Biden dépêche une délégation de haut niveau au Mexique pour parler d'immigration. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les premiers résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce vendredi en République démocratique du Congo, suivant des élections tumultueuses étalées sur au moins 2 jours. Malgré ces difficultés, les autorités estiment que le processus s'est globalement bien déroulé. Cependant, dès la fin du scrutin, les combats ont repris dans l'est du pays. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
Le scrutin, initialement prévu pour le 20, est prolongé jusqu'au 21 en raison de divers problèmes logistiques, a officiellement pris fin. La commission électorale a clairement indiqué l'arrêt de toute activité de vote ou de dépouillement après le 21 décembre. Cependant, des rapports persistaient ce vendredi à midi, faisant état de poursuite des opérations électorales dans des régions reculées. L'Union africaine a noté dans une déclaration préliminaire que malgré des défis logistiques majeurs, les élections se sont tenues dans un climat relativement calme. Le président sortant, Félix Tshisekedi, se présente pour un second mandat face à 18 autres candidats. Les premiers résultats partiels devraient être diffusés depuis un centre de compilation spécialement mis en place à Kinshasa, selon le deuxième vice-président de la CENI, lors d'une annonce sur la radio Top Congo jeudi. Les États-Unis ont exhorté à la transparence électorale, avertissant qu'ils dénonceraient toute irrégularité compromettant le processus démocratique congolais. Plus de 44 millions d'électeurs étaient invités à voter parmi plus de 100 000 candidats au quadruple scrutin.
Dans l'est de la RDC, des combats font rage ce vendredi, alors que les élections générales s'achèvent à peine. Des combats intenses se font entendre à Kibarizo, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, rapportent des habitants de la zone. Les affrontements opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23. Après avoir repris les armes fin 2021 et mis en déroute l'armée congolaise, la rébellion s'est emparée de larges pans des territoires de Rutshuru et de Massissi, dans le sud du Nord Kivu. Le départ des derniers militaires français du Niger ce vendredi matin marque la fin des opérations, symbolisant la rupture entre Paris et le régime militaire issu du coup d'État à Niamey. Ce retrait met fin à plus d'une décennie d'engagement de la France dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Les détails avec Eric Mandirakiza.
Le retrait des forces françaises du Niger a été marqué par une cérémonie officielle symbolisant la fin de leur présence militaire dans le pays. Cette opération a mis fin à plus de 10 ans d'engagement de la France dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. La cérémonie s'est déroulée à la base aérienne de Niamey, où étaient stationnés environ 1500 soldats et aviateurs français. Ces derniers militaires français ont quitté le pays à bord de 2 avions et leur destination n'a pas été révélée. Durant cette cérémonie, un document conjoint a été signé par le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger et le commandant des forces françaises au Sahel en présence de représentants du Togo et des États-Unis. Depuis le coup d'État survenu le 26 juillet, les autorités militaires au Niger ont rompu leurs liens avec plusieurs partenaires occidentaux et se sont rapprochés de la Russie. Malgré cela, d'autres pays tels que les États-Unis et l'Allemagne ont exprimé leur volonté de reprendre des discussions avec le Niger, manifestant un intérêt pour la reprise de projets de coopération militaire dans le pays.
Le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a formé mercredi soir un nouveau gouvernement et a signé la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements que M. Embalo a qualifiés de tentative de coup d'État. Le nouveau gouvernement bissau-guinéen comprend donc 33 membres formés de 24 ministres et 9 secrétaires d'État issus du camp du président Embalo, la coalition d'opposition Peaïtera Ranka et de partis minoritaires. Le nouveau premier ministre Rui Duarte Barros a remplacé Geraldo João Martins, qui a été évincé mercredi, 8 jours après avoir été reconduit à la tête du gouvernement. Le congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, d'abord suspendu par la justice, se tient aujourd'hui dans la capitale. Yamoussoukro, objectif de la principale formation d'opposition, élit un nouveau chef pour tenter de revenir au pouvoir lors de la présidentielle de 2025. Deux candidats sont en liste, le banquier ivoiro-français Tidjane Thiam et le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé. Quelle que soit l'issue du scrutin, le PDCI va rajeunir son leadership avec ce congrès. Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé ont respectivement 61 et 62 ans, ce qui est considéré comme jeune pour exercer de hautes fonctions publiques en Côte d'Ivoire. Au Togo, un incendie a ravagé le marché d'Agouenivé, l'un des plus importants de la capitale. Dans la nuit d'hier, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, un coup dur pour les commerçants qui viennent de renforcer l'approvisionnement de leurs magasins et étalages pour cette période de fête de fin d'année. La gendarmerie a ouvert une enquête. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
Déclaré aux environs de 22 heures, l'incendie a duré toute la nuit et a consumé la majeure partie du marché situé au centre du Grand Lomé. Les sapeurs-pompiers n'ont eu raison des flammes qu'au petit matin de ce vendredi avec l'aide des populations des quartiers riverains. Chez les commerçants du marché d'Agouenivé qui viennent de faire des provisions en cette période de fête de fin d'année, c'est la tristesse, la désolation et la colère. Plusieurs d'entre eux témoignent avoir perdu des dizaines de millions dans l'incendie. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement a présenté sa compassion aux tenants des commerces, victimes de cet événement malheureux dont l'origine est pour le moment inconnue. L'incendie de ce marché, très fréquenté par les populations de la capitale togolaise, intervient 10 ans après celui du grand marché de Lomé, le plus grand centre commercial du pays qui attend toujours d'être reconstruit. Kossi Woussou, Lomé pour VOA. Afrique.
En Afrique du Sud, 2 foyers d'incendie faisaient rage ce vendredi aux environs du Cap, ayant forcé l'évacuation de 300 personnes et ravagé plus de 1150 hectares depuis mardi. L'accès au Cap de Bonne-Espérance à la pointe du sud du continent a été fermé ce vendredi matin. Un important commandant du groupe islamiste somalien, les Shebab, considéré comme le responsable d'une attaque menée en 2020 sur une base militaire américano-kenyane dans l'est du Kenya, a été tué, a annoncé le ministère somalien de l'information. Les États-Unis avaient placé une récompense de 10 millions de dollars pour la capture de Mali Maïman, chef d'une unité de ce groupe islamiste affilié à Al-Qaïda, qui mène depuis 2007 une sanglante insurrection contre le gouvernement somalien. Et puis en Libye, l'ONU s'est dit préoccupée par la mort en détention d'un ancien ministre de la Défense, le colonel Al-Mahdi Al-Barghati, et de 6 de ses proches arrêtés en octobre à Benghazi, la grande ville de l'Est.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a indiqué aujourd'hui qu'elle allait étendre son offensive terrestre au centre de la bande de Gaza, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter dans la journée une résolution visant à augmenter l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens. L'immigration au centre des débats ici aux États-Unis, des responsables américains de haut niveau se rendront prochainement au Mexique pour discuter du sujet. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la Maison-Blanche après un appel téléphonique entre le président Joe Biden et son homologue mexicain André Manuel López Obrador, Abdourahmandia.
Les deux dirigeants ont échangé jeudi sur leurs actions visant à gérer les flux migratoires sans précédent sur le continent américain au moment où les autorités de deux États frontaliers, le Texas et l'Arizona, ont elles-mêmes pris des mesures inédites à la place du gouvernement fédéral qu'elles accusent d'inaction. Ils ont convenu de la nécessité de mesures supplémentaires en urgence pour permettre la réouverture de points d'entrée cruciaux sur la frontière commune, précise le communiqué de la Maison-Blanche. La police aux frontières fait état ces dernières semaines de quelques 10 000 passages chaque jour, un record. L'envoi de cette délégation intervient aussi au moment où les parlementaires discutent à Washington d'un accord sur l'immigration, condition posée par les républicains pour donner leur accord à une nouvelle enveloppe financière pour aider l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie. Le sujet de l'immigration occupe de plus en plus une place importante dans les discours des candidats à la présidentielle de 2024.
Et Kiev a été la cible d'une attaque de drones russes dans la nuit de jeudi à vendredi, la sixième attaque du genre sur la capitale ukrainienne depuis le début du mois, rapportent les autorités. D'autres drones ont visé des régions du centre, du sud et de l'ouest du pays. 24 drones sur 28 ont été abattus par la défense aérienne, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Washington a salué aujourd'hui la très rare décision du Japon de lui transférer des systèmes de défense antiaérienne Patriot pour reconstituer les stocks des États-Unis dégarnis par l'aide militaire à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden est très reconnaissant au premier ministre japonais Fumio Kishida, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, en jugeant que cette décision contribuerait à la sécurité du Japon. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute pro avec Nathalie Barge.
Le Bénin enregistre une baisse de revenus portuaires. L'oléoduc reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise, censé permettre la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est un sujet de préoccupation pour les deux pays. Le Niger attend une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin la perception de droits de transit. Le 10 décembre, la CEDEAO a ouvert la voie à un allègement des sanctions à l'encontre du Niger. Lors d'une visite de travail hier à Tunis, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie est prête à fournir davantage de céréales à la Tunisie. Après 4 ans de stress hydrique, le pays doit importer la totalité de ses besoins en blé et orge. Il manque de liquidité pour financer ses importations, ce qui entraîne des pénuries de farine. Tunis a dit vouloir renforcer la coopération avec Moscou, également dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de la science. Le Maroc se dirige vers sa 6e année consécutive de sécheresse, a indiqué le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Les réservoirs ne sont remplis qu'à 23%. Face au stress hydrique, les autorités prévoient de construire 7 nouvelles stations de dessalement d'une capacité de 143 millions de mètres cubes par an d'ici fin 2027. Selon des données officielles, le pays possède déjà 12 stations de dessalement d'une capacité de plus de 179 millions de mètres cubes annuels.
Place maintenant au sport avec Eric Panirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Football Maroc, le patron du Wydad placé en détention pour détention de drogue.
Le président du Wydad Casablanca, l'un des principaux clubs de football du Maroc, a été placé en détention ce vendredi dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue, a dit son avocat. Saïd Nassiri, 54 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment falsification de documents officiels, possession et distribution de drogue et utilisation de chèques contrefaits, a précisé l'avocat qui n'a pas souhaité que son nom soit cité. Il est aussi poursuivi pour blanchiment d'argent, selon des médias marocains. L'enquête implique au total 25 prévenus, dont 21 sont actuellement en détention. Le Wydad, qui a remporté à 3 reprises la Ligue des champions de la CAF, est l'un des clubs marocains les plus titrés.
En Angleterre, Arteta espère qu'Arsenal va mettre fin à 11 ans de disette à Anfield Road.
Qu'Arsenal gagne enfin à Anfield Road, c'est le souhait le plus cher de Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, à la veille du match au sommet de la Première Ligue, qui verra Liverpool deuxième accueillir dans son antre les Londoniens, leaders demain samedi à 18h en temps universel. Nous y sommes parvenus à Old Trafford, l'antre de Manchester United, à Stamford Bridge, le terrain de Chelsea, et dans d'autres endroits où nous n'avions plus gagné depuis longtemps. Et notre prochain objectif, c'est d'aller là-bas et de gagner, a déclaré l'Espagnol ce vendredi en conférence de presse. L'ancien milieu de terrain était de l'équipe d'Arsenal lors du dernier succès des Gunners à Anfield Road contre les Reds, 2-0 en septembre 2012.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, promet de publier aujourd'hui les premiers résultats des élections générales du 20 décembre, qui se sont d'ailleurs poursuivies le lendemain dans plusieurs localités. L'opposition dénonce les nombreux problèmes logistiques et demande même une réorganisation du scrutin. Abdourahmane Dia a joint au téléphone l'un de nos envoyés spéciaux, Eddy Sango.
Les derniers développements, c'est que les élections se sont terminées quasiment partout, d'après madame les reporters de la CENI que j'ai vue, et qui m'a aussi précisé que il reste peut-être dans certains bureaux de la zone, la grande zone de l'Équateur, où il y avait eu des troubles et des casses. C'est là qu'ils vont voir s'ils vont encore organiser des élections. Mais sinon, partout ailleurs, les dépouillements s'est tenu ou se déroulent en ce moment. Et les résultats sont en train d'être collectés. La rapporteure de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a aussi promis d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils commenceront par publier les résultats partiels, en commençant par la diaspora, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Belgique.
Plusieurs missions d'observation électorale ont fait des déclarations ce vendredi. Que disent ces missions? Quelles sont leurs première conclusion?
En tout cas, la plupart d'entre elles disent que les élections se sont passées dans les calmes. Bon, il y a eu quelques ratés, ça et là, parce qu'il y avait des problèmes matériels et logistiques, mais que cela ne devrait pas porter préjudice aux résultats des élections.
Mais que disent les hommes politiques?
Les hommes politiques, il faut dire que les opposants, ils sont divisés pratiquement en deux groupes. Il y en a qui sont avec Moïse Katumbi. Il y a un autre groupe qui a regroupé Fayulu Mukwege et d'autres candidats. Tous sont en train de dénoncer tout ce qui n'a pas marché. D'abord en disant que la CENI a préparé un chaos parce qu'on la prévenait et elle n'entendait pas. Et maintenant, ça se voit, c'est le chaos parce qu'il y avait un désordre, il faut le reconnaître aussi. Les élections ont commencé à certains endroits 2 heures après l'heure prévue. À certains autres endroits, même un jour après, on a dû prolonger. Et même la prolongation pour les groupes d'opposants de Martin Fayulu et les autres est anticonstitutionnelle. De son côté, Moïse Katumbi a aussi dit la même chose.
Eddy Sango, envoyé spécial VOA Afrique à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les derniers soldats français au Niger ont quitté la base aérienne projetée de Niamey ce vendredi 22 décembre au matin. Un départ acté le 24 septembre dernier par le président Emmanuel Macron après le coup d'État du 26 juillet. Précision de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Ils sont une cinquantaine au total, en majorité des logisticiens, à avoir embarqué dans un avion militaire ce matin à la base aérienne de Niamey. Pas un mot à la presse, ni d'eux, ni du commandant des forces françaises au Sahel, le général Éric Ozan, venu à Niamey pour la circonstance. Il a apposé sa signature sur le document actant la restitution de l'emprise au Niger. Pour la partie nigérienne, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Kiaou, qui a signé le document. Lui non plus ne s'est pas adressé à la presse. Il n'y a donc plus aucun soldat, ni du matériel français, excepté quelques bâtiments de chantier modulaire et hangars aéromobiles sur la base aérienne projetée de Niamey après 2 mois et demi de manœuvre. Au sein de l'opinion, la fin de ce départ des Français est saluée.
C'est une bonne chose. Et ça veut dire que la lutte a abouti au départ français. Donc maintenant, on va encore chercher des partenaires fiables. Et pour renforcer nos capacités en renseignement et en matériel quoi, avec les partenaires.
On est content de leur départ car c'est une bonne chose pour le pays. Et puis maintenant, l'armée nigérienne va prendre le relais.
Je suis très ému de leur départ et je le pense aussi pour les autres Nigériens. Car leur présence ici nous a beaucoup embrouillés. Leur départ aussi est une libération pour nous. Parce que car longtemps ils sont là, appuyer nos ressources. Trop c'est trop. Aujourd'hui, ça suffit. Nous les Nigériens, nous avons pris tout notre destin en main.
Le combat était rude, il était acharné, parce que il était permanent compte tenu donc de la situation, compte tenu du comportement du président français, on n'a pas besoin. S'ils ont fait des accords, ils ont signé des accords, ce n'est pas entre l'État français et l'État du Niger, ils l'ont fait entre des personnes. Ils vont voir si on va mourir. Dans tous les cas, ce n'est pas eux qui nous soutiennent, qui nous supportent. C'est même au contraire, c'est par rapport, ils sont là par rapport à leur intérêt.
Le divorce entre Paris et les nouvelles autorités nigériennes est ainsi consommé, ce d'autant plus que la France a décidé de fermer pour une durée indéterminée son ambassade à Niamey, où elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement selon des sources. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Burkina Faso vient d'adopter le tissu traditionnel Faso d'Anfani, comme la tenue scolaire, au moment où l'industrie burkinabé du textile connaît un boom. Mais des opérateurs locaux montrent du doigt les produits contrefaits qui inondent les marchés du pays et qui viennent notamment de la Chine, selon eux. Reportage à Bobo Dioulasso d'Alidou Ouedraogo.
Seule industrie du fil dans la zone Uyomoa, la filature du Sahel Filsa est dans une mauvaise passe. Le stock invendu s'entasse dans les entrepôts de l'usine. Les importations de fils chinois ont envahi le marché. Le directeur général Abdoulaye Naboulé explique les raisons profondes.
Cette situation globale est due à l'importation de fils. Elle a prouvé que c'est des quantités importantes qui sont rentrées.
Abdoulaye Naboulé appelle les services de contrôle douanier à la rescousse.
Parce qu'ils ont demandé à commander du fil pour la couture des tenues. Et on s'est retrouvé avec du fil pour le tissage. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si des dispositions à l'intérieur du pays permettent de vérifier ça au niveau de la douane, parce que peut-être que si ça avait été fait, et que si l'Abénorme avait visité et analysé un certain nombre de choses, peut-être que ça n'aurait pas pu se faire. Mais...
Le directeur général de l'entreprise évalue pour nous l'immense stock invendu.
Et Filsa aujourd'hui emploie 560 personnes permanentes. Vous imaginez que face à de tels invendus, la tendance est d'arrêter une bonne partie du personnel. Même entre les machines, nous avons des stocks. C'est plus de 2 milliards de francs CFA.
Cette invasion des tissus chinois n'inquiète pas seulement les grandes entreprises. Les artisans sont les premières victimes. Devant sa machine, Sali Nana craint une invasion du Faso d'Anfani contrefait.
Nous craignons qu'ils viennent envahir le marché. Ils sont très forts dans la contrefaçon. Nous ne pouvons pas tenir à leur concurrence.
Dans sa boutique, Omer Ouedraogo tente de convaincre la clientèle d'acheter seulement le pain tissé sur place.
Il y a beaucoup de copies, mais la différence est que pour eux, c'est en polyester. Pour nous, c'est en coton pur. Ils prennent le fil pour aller faire comme si c'était du Faso d'Anfani, alors que c'est en plastique. Le tissu devient très léger car ce n'est pas du coton.
En tout cas, les pouvoirs publics nous ont rassurés qu'ils sont là-dessus pour commencer à réguler cette situation-là de façon à ce que ça ne se termine pas dramatiquement. Hein, on en a déjà pas mal de sociétés qui ont mis la clé sous le paillasson.
Le coco d'Ona est un autre pain qui avait commencé à connaître des versions importées. Il a fallu l'opposition des organisations de la société civile pour stopper l'hémorragie. Pour l'agence burkinabé de la normalisation, ce ne sont pas les textes et les lois protégeant les produits locaux qui manquent, mais leur application. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Côte d'Ivoire, la toute première maison de retraite du pays a ouvert ses portes il y a 3 mois. L'établissement privé ne compte pour l'heure aucun résident dans un pays où l'accompagnement des personnes âgées se fait traditionnellement dans les familles. Ginny Niwa nous en dit plus.
Située dans la banlieue d'Abidjan, à Bingerville, cette maison rénovée et spacieuse, équipée de 7 lits adaptés et d'un personnel formé à la gériatrie, attend toujours ses futurs locataires. Nina Zougo est la fondatrice de la maison de retraite.
Ce qui empêche les parents, les personnes qui nous appellent de venir à la maison de repos, c'est la peur du jugement. Ils ont peur des regards des autres. Qu'est-ce que mes amis diront ? Qu'est-ce que la famille va en penser ? En fait, c'est un peu ça le problème.
Une solidarité mécanique, selon Arnaud Dayoro, sociologue et spécialiste du vieillissement, dans un pays où, comme ailleurs en Afrique, le respect des aînés est une base fondamentale des relations sociales.
Durant leur parcours de vie, durant leur parcours professionnel, ils n'ont pas toujours vécu éloignés des membres de la famille. Donc aujourd'hui, à un moment où ils ont beaucoup plus besoin des membres de leur famille, leur demander de se retirer, d'aller plus loin, paraît pour eux quelque chose de nouveau et difficile.
À Atékoubé, un quartier populaire de l'ouest d'Abidjan, deux colocataires retraités, assis à l'ombre d'un arbre, discutent de leur vieillesse dans leur cour ensoleillée. Ata Kwame est l'une d'elles, elle a 79 ans.
Quand tu as fait les enfants là, ils doivent te regarder jusqu'à le jour où tu vas partir là.
La fille d'Ata Kwame, Emma Kofi, s'occupe quotidiennement des deux vieilles dames depuis 8 mois.
C'est fatigant. Parfois, même si nous t'énerve. Parfois, quand elle fait, je la laisse dans la maison, je dis, je suis fatigué. Je la laisse, je sors. Et puis après un moment, je retourne le faire. Ta conscience te dit, c'est ta maman après tout. Parfois même, je dois voyager, mais je ne peux pas. Je suis obligé de rester à cause de ces médicaments. Parce qu'elle ne prend pas sur 2 jours, elle peut faire sa crise. Donc je me prive de beaucoup de choses à cause d'elle.
Mais la cohabitation fonctionne pour Henriette Bian, 74 ans. Elle vit avec l'une de ses filles et reçoit régulièrement la visite de membres de sa famille.
Quand je suis avec mes enfants, ça me plaît. Si je suis là-bas aussi, c'est bien. Mais ça dépend. Vous savez, ça dépend les lieux où, comment ils vont te traiter. S'ils ne vont pas te taper sur les fesses, bon, va là-bas. Pourquoi tu manges comme ça? Toujours elle fait ça. Oh, à la maison, on va dire, maman, tu veux quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu es couché depuis là?
En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 57 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Mais cette maison de retraite n'est accessible qu'à une minorité aisée de la population ivoirienne. Un séjour d'une journée coûte 35 000 francs CFA, soit environ 57 dollars américains, la moitié du salaire mensuel minimum.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, le réseau X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.